C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, c'est fascinant et effrayant à la fois. Notre planète a 4,5 milliards d'années. Elle fait partie du système solaire qui est composé d'une étoile, le Soleil, et de 8 planètes qui lui tournent autour. Ce système solaire fait partie d'une galaxie, la Voie lactée, qui abrite entre 200 et 400 milliards d'étoiles comme le Soleil. Et la Voie lactée n'est qu'une galaxie parmi les milliards de galaxies de l'univers. Alors ça y est, vous avez sans doute comme moi le vertige. Et oui, nous sommes tout petits et le plus captivant, c'est que la Terre est pour l'instant la seule planète où nous pouvons vivre. Je dis pour l'instant car la conquête spatiale affole nos imaginaires. Comme la Terre montre ses limites, pourquoi ne pas aller chercher ailleurs? C'est le thème d'une des nombreuses conférences organisées par l'École urbaine de Lyon pour la 4e édition de son festival intitulé À l'école de l'Anthropocène. C'est au milieu de cet événement que nous avons installé notre studio cette semaine au RIZ, un lieu culturel situé à Villeurbanne, près de Lyon, dans le sud-est de la France. Villeurbanne, baptisée capitale française de la culture pour cette année 2022.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Patrick Tolo.
Bonjour.
Vous êtes géologue et planétologue. Vous êtes professeur agrégé de sciences de la Terre et de l'univers à l'École normale supérieure de Lyon. Alors, la Terre est, dans l'état actuel de nos connaissances, une exception dans l'univers?
Oui. Alors, il faut aussi reconnaître qu'on connaît peu de choses sur l'univers. Vous avez bien présenté cela. Et j'aime
ça
dire
va, à... j'ai pas fait de fausse.
J'aime dire à mes étudiants qu'il y a 1 000 milliards, de 1 000 millions, de 1 000 étoiles dans l'univers. Donc on est loin d'avoir fait le tour, et en fait on peut pas, puisque c'est tout simplement trop loin, on n'a pas d'informations dessus. Les seuls cas concrets sur lesquels on peut dire des choses intéressantes, détaillées, c'est les planètes de notre système solaire. Et dans les planètes du système solaire, eh ben, la réponse elle est assez simple, hein. On a notre planète Terre et le reste n'est pas très habitable.
Alors parlez-nous un peu de nos voisines.
Alors nos voisines, bon, il y en a, je ne vais pas trop en parler, parce que Jupiter et Saturne sont des planètes géantes essentiellement constituées de gaz, donc il n'y a pas de surface, tout simplement. Donc pour nous, c'est un petit peu compliqué d'imaginer aller s'y balader, mais elles ont des lunes intéressantes. Par contre, il y a des planètes qui ressemblent à la Terre, les deux plus proches, il y a Vénus, qui est un peu plus près du Soleil, et il y a Mars, qui est un petit peu plus loin. Vénus a la même taille, même densité, même masse que la Terre. Mais sa surface n'a rien à voir. Vénus est couverte d'une atmosphère qui est 100 fois plus dense que la nôtre. Et la température à la surface est de 450-470 degrés Celsius. Donc c'est pas une température très sympathique. C'est suffisant pour fondre du plomb ou du zinc. C'est absolument inhabitable. Il n'y a pas une goutte d'eau, absolument rien. Quant à la planète Mars, alors elle est 10 fois plus petite que la Terre en masse. Et comme elle est petite, elle a perdu son atmosphère, incapable de la retenir. Il y en a un petit peu, hein, mais c'est très insuffisant pour être considéré et surtout efficace pour réchauffer la planète. Et comme elle est plus loin du Soleil, il fait beaucoup trop froid pour qu'il y ait à nouveau de l'eau liquide à sa surface. Donc il y a de la glace, un petit peu, comme les calottes polaires terrestres, mais il n'y a pas d'eau liquide à sa surface. Ce qui donne déjà une idée, pour simplifier... C'est pas vraiment un endroit très sympathique.
C'est quoi, c'est moins 40 degrés sur Mars ?
La moyenne, c'est moins 60, moins 70. Mmh. On atteint péniblement le 0 degré en plein été, à midi.
Oui, en effet, ça ne donne pas tellement envie d'aller y habiter. Bonjour Isabelle Sauvage-Berger.
Bonjour.
Alors vous êtes géographe, directrice de recherche au CNRS, vous êtes spécialiste des politiques spatiales. Alors la conquête spatiale, elle a débuté finalement dans les années 50 sur fond de rivalité entre les Américains et les Soviétiques, c'est un peu cela qu'on a en tête.
Oui, et en même temps, l'année 1957-58, c'est l'année géophysique internationale, celle dans le cadre des grandes unions scientifiques internationales, où tous les pays s'entendent pour apprendre à mieux connaître la planète et son environnement. Et donc, c'est dans le cadre de cette année que les États-Unis puis l'Union soviétique annoncent qu'ils lanceront le premier satellite artificiel, ce qui évidemment déclenche beaucoup d'enthousiasme de la part des scientifiques. Et c'est assez amusant parce qu'en France, il y a un rapport qui est fait qui dit au moins on aura une connaissance un petit peu plus scientifique que celle des géographes photographes qui partent avec leur traîneau et leur chien au pôle. Et là, il y a quand même l'idée déjà que un satellite va fournir un instrument, un type d'instrument scientifique, etc. Sauf qu'en même temps, on n'est jamais allé dans l'espace. On ne sait pas du tout comment ça se passe. On ne sait pas du tout comment on va communiquer avec le satellite. Et les motivations profondes des États-Unis, qui sont quand même plutôt à l'origine des programmes de satellites, c'est essentiellement de faire de l'espionnage, de la reconnaissance photographique sur le territoire de l'Union soviétique. On est en pleine guerre froide, qui est l'adversaire potentiel et qui, bien sûr, garde comme un secret militaire très, très étroit les cartes sur son territoire. Et donc, dans l'idée d'une opération militaire américaine, on a besoin de cartes précises sur l'Union soviétique. Et les soviétiques, eux, de leur côté, ils ont un autre problème, c'est que s'ils veulent avoir la dissuasion nucléaire, il faut qu'ils aient des missiles intercontinentaux pour menacer les États-Unis. Les États-Unis, eux, ils ont des bases en Europe. C'est très différent. Et donc, l'Union soviétique fait porter ses efforts sur ce missile qui va devenir le premier lanceur spatial. Et comme la première bombe nucléaire soviétique est lourde, elle est grosse, elle est importante, ce premier lanceur dérivé du missile intercontinental, il est puissant et il va être capable d'emporter un premier satellite Sputnik qui n'est pas très gros, mais ensuite des satellites qui sont beaucoup plus imposants par rapport aux satellites américains. Donc il ne faut quand même jamais oublier qu'il y a cette double filiation. Une filiation, oui, de la guerre froide et très liée au nucléaire, mais aussi cette filiation des interrogations scientifiques sur la connaissance de la planète.
Et alors, du coup, les premiers satellites ont été lancés quand ?
Alors, premier satellite, 4 octobre 1957, c'est Sputnik. Alors, il est extrêmement performant, il fait bip, bip, bip. On peut entendre son... Je fais un peu vite. On peut entendre le son. C'est un son un peu plus strident que ça, qui est pas... qui effectivement n'est pas très convivial, je dirais, et qui suscite beaucoup d'angoisse aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, on n'a pas imaginé une seconde que l'Union soviétique puisse faire quelque chose d'aussi extraordinaire que d'envoyer un objet quitter la planète Terre et que les États-Unis ne l'aient pas fait avant. Deuxième traumatisme, c'est que, comme tous les objets en orbite basse, l'objet tourne autour de la Terre et la Terre défile dessous, puisqu'elle tourne en 23h56 minutes. Et donc, à intervalles réguliers, vous pouvez capter ce bip-bip qui a été conçu pour être reçu par les radioastronomes du monde entier. Parce que, en Union soviétique, on veut quelque chose qu'on pourra entendre. Donc, on essaie de passer dans les bandes de fréquences les plus communes. Et donc, du coup, les Américains, très vite, se mettent à imaginer qu'au lieu d'avoir un satellite qui n'a que cet instrument à bord, il pourrait y avoir une bombe nucléaire ou un moyen de les attaquer. Mais globalement, si vous voulez, c'est un mixte d'admiration, de frayeur quand même, dans les territoires américains. Et donc, 1961, première photo de la face cachée de la Lune, et puis surtout le premier homme. Et tout ça sont des premières soviétiques. Et si bien qu'arrive le moment où Kennedy décide qu'il est temps d'arrêter cette espèce d'hémorragie de prestige américaine et que les États-Unis vont faire un programme extraordinaire dont le monde entier se souviendra, ce qui est quand même toujours le cas, puisqu'ils vont décider de faire marcher un homme sur la Lune. Dans le cadre du programme Apollo.
Alors justement, voir la Terre d'en haut, tous les astronautes qui ont eu la chance d'orbiter, donc de circuler autour de la Terre, ont témoigné de l'impact émotionnel produit par le fait de voir notre planète de l'espace. C'est ce qui explique le succès de la photo Blue Marble, la bille bleue prise le 7 décembre 1972 par l'équipage d'Apollo 17 à une distance d'environ 45 000 km. Une photo qui fascine le mathématicien Jean-Pierre Gou.
Vous avez tous déjà vu cette photographie, au moins sur la couverture de vos livres d'histoire géo, et certainement bien ailleurs, parce que cette photo, c'est la photo la plus reproduite de l'histoire de l'humanité. Pourquoi ? C'est la seule qu'on ait, elle est unique. C'est le seul portrait que l'on ait de la Terre tout éclairée. Ça, c'était jusqu'à l'année dernière. L'histoire de cette photo est moins connue. Elle s'appelle Blue Marble. Elle a été prise le 7 décembre 1972 par les astronautes de la mission Apollo 17. Cette mission Apollo 17 était la dernière des missions Apollo, et dans toutes les missions précédentes, la Terre n'était jamais complètement éclairée. Donc c'était la première photo de la Terre qu'on a reçue, mais aussi la dernière. Cette photo, quand on l'a reçue, elle a tout changé. Pour la première fois, l'humanité voyait sa maison. Elle découvrait que la Terre était ronde. On le savait. On nous l'avait dit, mais on en avait la preuve. Cette photo nous a fait aussi comprendre que notre planète était magnifique, mais qu'elle était aussi fragile, perdue dans une étendue noire et lugubre. Elle nous a donné envie de nous la protéger. Cette photo a démarré un mouvement qu'on appelle la conscience planétaire. Elle est intervenue en 1972, exactement quand les problèmes environnementaux devenaient globaux, et elle a aidé le développement des mouvements écologistes. Malheureusement, l'effet de cette photo s'est estompé avec les décennies.
Bonjour Adrien Pinon.
Bonjour.
Alors vous êtes auteur photographe, vous aussi vous êtes fasciné comme Jean-Pierre Gou par cette photo Blue Marble, la bille bleue. Jean-Pierre Gou, lui, en a fait un projet pédagogique, onehome.org, il en parle aussi dans sa saga Siècle Bleu qui a été publiée récemment dans la collection Babel Poche et Actes Sud. Et vous, vous en faites un projet pédagogique. Expliquez-nous tout d'abord quelle est votre fascination pour cette photo.
La fascination de cette photo, elle est née via l'École urbaine de Lyon, en fait. Et je me rends compte, via le discours de Michel Lussault, à quel point cette photo, outre le fait qu'elle est belle, est marquante dans la compréhension de notre monde et de notre place dans l'univers, de notre fragilité. Et je me rends compte qu'en plus de ça, elle fête son jubilé en 2022. À partir de ce constat de la beauté et de l'importance du fond de la photo, et de son jubilé qui arrive, j'ai eu l'idée d'en faire un projet nouveau en ratterrissant sur Terre. L'École urbaine de Lyon utilise cette image comme image étendard. C'est l'accroche ultime pour justement parler de leur sujet, le monde sur lequel nous vivons. Et donc du coup, avec ce double constat, un jubilé à fêter, un programme universitaire qui ressemble à un programme spatial, et j'ai proposé à l'École urbaine de Lyon de le transformer en programme spatial et de remettre les pieds sur Terre et de dire 50 ans après, si on ratterrit, si on entre dans cette photo, on ratterrit dans ce monde que l'on voit, qu'en est-il advenu ? Qu'est-ce qu'on peut y voir ? Qu'est-ce qu'on peut y prendre pour justement mieux comprendre l'évolution du monde de ces 5 décennies qui viennent de passer.
Donc vous avez 2 spationautes finalement qui atterrissent sur la Terre et vous les prenez en photo et vous documentez en fait les objets et les paysages de l'Anthropocène, donc cette ère géologique qui est modifiée par l'impact des activités humaines.
Exactement. Alors plus que de les prendre les 2 en photo, je suis l'un des 2 spationautes. Je m'immerge et les 2 spationautes ont 2 missions respectives. Il y en a un qui est plutôt géologue, chimiste, qui s'affaire à ramasser la matière et les objets nécessaires à l'étude anthropocène. Donc on va le voir cueillir de l'eau, des pierres, des détritus, tout ce qu'il peut prendre et mettre dans un sac à dos. Et le deuxième spationaute que je suis, qui a plutôt du coup une casquette d'architecte, docteur en géographie, va s'intéresser à la prise visuelle, justement, comme vous venez de le dire, des paysages et des environnements anthropocènes, du détail au plus large, pour qu'au final, l'École urbaine de Lyon, une fois le retour de ces 2 spationautes, ait sous la main à la fois un inventaire physique, des objets à analyser, à triturer, à regarder en profondeur, mais aussi un inventaire visuel permettant de mieux comprendre la présence des humains dans ce monde, la manière dont ils habitent, le transforment, ils le modifient, et du coup de pouvoir illustrer, augmenter leurs propos, leurs études qu'ils sont en train de faire.
Patrick Tolo, c'est réatterrir sur Terre finalement.
Oui, je trouve ça très intéressant parce que c'est la démarche qu'on a sur les autres planètes. Alors je pense surtout à la planète Mars, que c'est celle qui est la plus explorée actuellement, mais aussi on peut penser à ce qui s'est passé sur la Lune avec les missions Apollo. Les astronautes ont documenté, alors sous la direction à distance à Houston d'équipes de géologues, ils ont documenté les paysages, ils ont documenté les affleurements géologiques en contexte, et puis ils ont ramassé des échantillons après avoir compris ce qu'ils pouvaient signifier régionalement là où ils étaient. Et sur la planète Mars, c'est aussi ce que l'on fait après avoir cartographier la planète depuis l'orbite avec des sondes spatiales, avec des photographies, avec des données de spectroscopie qui nous en disent un peu plus sur la composition, eh bien, on vient se poser avec des robots qui d'abord analysent in situ avec des instruments transportés. Et puis maintenant, le dernier en date, Perseverance, est en train de récolter des échantillons qui va pouvoir effectivement poser quelque part où ils seront récupérés par une autre mission qui les ramènera sur Terre. Donc on est tout à fait en train de faire écho à la véritable exploration spatiale.
Isabelle Sobas-Verger, qu'est-ce que vous pensez de cette démarche artistique et pédagogique à la fois ?
Je suis très sensible au fait qu'il y a en ce moment beaucoup de démarches artistiques. Vous avez à Echt au Luxembourg, qui est aussi capitale de la culture, tout un grand projet sur des terres rouges aux terres rouges et qui veut montrer comment finalement le Luxembourg de pays minier sur Terre pourrait devenir un pays minier sur Mars, puisque dans le cadre de la commercialisation des ressources célestes, ils ont eux aussi promu une loi qui autorise des sociétés luxembourgeoises à aller exploiter des ressources célestes. Bon, c'est un projet, l'exploitation des ressources célestes dont le business plan est quand même pas encore tout à fait garanti, je dirais, mais qui rentre dans ce grand mouvement de commercialisation que les États-Unis ont initié à partir de 2014. Donc, je trouve très intéressant de voir comment on peut se saisir d'un point de vue artistique de ces grandes questions qui étaient jusque-là quand même assez ignorées et comment elles peuvent d'un seul coup prendre une dimension civique qui est intéressante.
En tout cas, Adrien Pinon, votre démarche, le but, c'est de remettre les projecteurs sur la Terre alors que des délires de milliardaires nous font croire que nous pourrions aller vivre ailleurs. Nous en parlons juste après ça.
Muitas vezes o coração consegue compreender o que a mente não faz questão, nem tem forças pra obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós. Tem um mundo a esperar por nós, no infinito do céu azul. Pode ter vida em Marte, então vem cá, me dá sua língua. Então vem, que quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida, meu bem. Vamos viver a vida. Então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars. Obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós. Tem um mundo a esperar por nós. O infinito do céu azul. De ter vida em Marte, então vem cá, me dá sua língua. Então vem, que eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida, meu bem. Vamos viver a vida. Então vem, senão eu vou perder quem sou. Querer me mudar para uma life on Mars.
C'est où George, Life on Mars dans C'est pas du vent sur RFI. Nous sommes au centre culturel Le Riz à Villeurbanne, la capitale française de la culture pour cette année 2022. Nous sommes près de Lyon, dans le sud-est de la France, à l'occasion de À l'école de l'Anthropocène, la 4e édition du Festival de l'école urbaine de Lyon. Plus d'une centaine de chercheurs, écrivains et artistes sont réunis ici jusqu'à dimanche pour réfléchir sur l'impact des activités humaines sur notre planète. Des impacts qui donnent envie à certains d'aller voir ailleurs, comme le milliardaire Jeff Bezos.
Le besoin humain d'explorer est au plus profond de chacun de nous.
Nos ancêtres ont traversé les chaînes de montagnes, ont parcouru des archipels et recherché l'inattendu. Et ça, en regardant toujours les étoiles. Nous sommes curieux. Et sur Terre, nous sommes à un moment où nous ne pouvons plus ouvrir de nouveaux horizons. Parce que la Terre, cette planète bleue et toute sa beauté, n'est que notre point de départ. Il est maintenant temps d'ouvrir la promesse de l'espace pour tous et d'ouvrir la voie aux générations futures. Lorsque nos descendants regarderont les étoiles, peut-être depuis une lune rocheuse ou deux colonies flottant dans l'espace, ils réfléchiront à l'endroit où cela a commencé. Ils se souviendront de cet endroit. Et lorsqu'ils honoreront ces premiers explorateurs qui ont dit « Allons-y », ils se souviendront de ces pas. Nous sommes Blue Origin, et c'est là que ça commence.
Alors, il y a beaucoup de sourires autour de la table dans ce studio. Isabelle Sourbès-Verger, il y a des sourires et des yeux levés au ciel. Comment est-ce que vous réagissez à ces propos de Jeff Bezos, qui veut bâtir quand même des colonies spatiales flottantes où des millions de gens pourraient travailler et vivre ?
Alors d'abord, je dirais que ce n'est pas si original que ça. Parce que les villes de l'espace de O'Neill, ça sort dans un ouvrage qui sort dans les années 1970 et sur lequel, effectivement, on imagine ces villes de l'espace. L'idée générale, c'est que tout compte fait, on va en quelque sorte, après avoir occupé toute la Terre, on va occuper l'enveloppe qui est au-delà de la Terre, la banlieue terrestre en quelque sorte, et on va l'industrialiser. Donc c'est un schéma extrêmement classique, je dirais, qui n'a rien de mythique ou de futuriste comme c'est décrit très joliment par Jeff Bezos.
Mais dans les années 70, techniquement, on ne pouvait pas l'imaginer. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut l'imaginer, mais le faire ? Aujourd'hui, on peut le faire ?
On peut ni plus ni moins l'imaginer. Faire une ville dans l'espace, c'est la même chose que faire une station spatiale auquel vous donnez plus d'activités. Et aujourd'hui, effectivement, on peut imaginer que des usines 3D, ça permet de faire plus de choses. Mais enfin, tout ça reste quand même soumis à un petit problème qui est comment vous l'approvisionnez, votre ville dans l'espace. C'est-à-dire que pour l'instant, les écosystèmes ne sont pas autonomes et de très loin, et que de toute façon, ça veut dire qu'il faut amener de l'eau, qu'il faut amener de l'air, qu'il faut, etc., etc. Et là, tout ça, ça a un coût. D'où vous en venez à la question de à quoi vont servir ces villes de l'espace ? Qui est quand même quelque part la vraie question. Ceci dit, avant même les villes de l'espace de O'Neill, quand les premiers ingénieurs du spatial pensaient l'activité spatiale, ils n'avaient pas pensé à aller explorer la Lune en direct, comme Kennedy l'a imposé, parce qu'ils voulaient un programme très court. Ils pensaient faire des stations en orbite terrestre, comme celle qui est représentée par la Station spatiale internationale, et se servir de cette station pour, en quelque sorte, avoir un point qui leur permettrait d'aller vers la Lune et qui, après, leur permettrait d'aller vers Mars. Donc, il y avait quand même toujours cette idée que ce qui coûte cher, c'est d'arracher à la Terre énormément de matériaux, et que la solution, parce que quand vous lancez un vaisseau qui fait 50 tonnes, il faut le lanceur qui vous lance le vaisseau de 50 tonnes. Donc, en gros, la grande question, c'était comment on pourrait faire en échappant à la Terre et en devenant autonome dans l'espace. Et ça, on ne sait pas le faire, à ma connaissance, toujours pas aujourd'hui, ou en tout cas à un coût tel que la question se pose vraiment de pourquoi le faire.
Patrick Tolo, un autre milliardaire, hein, Elon Musk, encore plus riche que Jeff Bezos, lui envisage non seulement de lancer des milliers de satellites autour de la planète pour diffuser plus rapidement et plus efficacement Internet et multiplier nos capacités de connexion, mais aussi il envisage, pourquoi pas, de nous faire habiter sur Mars. Est-ce que c'est quelque chose, ça mobilise beaucoup les imaginaires, mais est-ce que c'est réaliste ?
Alors Elon Musk, on est encore sur un personnage un petit peu particulier. Il y a pas mal d'Elon Musk, j'ai l'impression, chez Elon Musk. Son argent, bon, bien sûr, ne correspond qu'à la capitalisation boursière de ses sociétés. Alors, il ne roule pas non plus sur l'or. Donc, son business plan spatial, pour l'instant, ne tient que parce que la NASA existe et que la NASA est son premier client. La deuxième partie de son business plan, c'est effectivement de déployer sa constellation de satellites de communication Internet, donc par l'espace. Mais pour l'instant, je dirais qu'il n'a pas les moyens de ses ambitions, au sens où il faut effectivement avoir un projet, quelque chose qui va rapporter. Hein, il est dans une visée capitaliste. Donc, aller coloniser Mars, pourquoi pas ? Après tout, l'humanité a fait ça depuis toujours, aller voir au-delà des horizons. C'est ce que disait Jeff Bezos, encore qu'on peut discuter, hein, les horizons terrestres à explorer, il y en a encore un certain nombre. On peut penser à l'océan, qu'on connaît très très peu. C'est compliqué de vivre dans l'océan aussi, et peut-être même plus que dans l'espace, parce que l'océan c'est plein d'eau, l'espace c'est vide, au moins on a de la place. Mais dans l'océan, on a déjà de l'eau, et puis l'air est beaucoup plus près. Dans l'espace, on n'a rien de tout cela, c'est un milieu hostile, sans parler des radiations solaires ou cosmiques. Alors, se poser sur une autre planète, ça commence à devenir intéressant, parce que déjà, vis-à-vis de ces radiations, par exemple, si vous êtes posé sur la planète Mars, la moitié de la sphère qui vous entoure ne peut pas vous envoyer de radiation, puisqu'il y a la planète entre vous et ces radiations. Donc déjà, vous êtes un petit peu protégé, il y a une très légère atmosphère qui protège un petit peu aussi. Mais après, dans cette atmosphère, il n'y a rien d'intéressant. Il y a un tout petit peu de vapeur d'eau dont il va falloir des machines pour l'extraire, en brassant des quantités astronomiques d'air pour espérer retirer de quoi avoir un petit peu à boire. Il n'y a pas de dioxygène, donc il faut le générer, peut-être à partir de cette eau-là. Il y a encore moins de nourriture, et puis il n'y a pas tout l'écosystème qui va autour. Donc aller sur une autre planète, le problème, c'est que c'est finalement déplacer la Station Spatiale Internationale, pour moi, qui est déjà un projet à 100 milliards de dollars international, qui a mis 20 ans à se faire, et le mettre beaucoup plus loin. Au lieu d'être accessible dans la proche banlieue, il suffit, en quelque sorte, d'atteindre l'orbite terrestre, ce qui est déjà pas facile. Il faut aller sur Mars, ce que, pour l'instant, on arrive à faire qu'avec des véhicules qui font la taille d'une petite voiture citadine. Persévérance, c'est le record absolu, c'est un petit peu plus d'une tonne posée sur Mars. Avec une tonne, si on veut faire un vaisseau habité, je pense que l'habitant ne va pas durer très longtemps, parce qu'il lui faut quand même toutes ses réserves. Donc, c'est ce qu'est en train de faire Elon Musk, hein. Il développe une fusée avec des capacités qui dépassent peut-être d'un ordre de grandeur ce que l'on a actuellement, et réutilisable. Donc, il l'espère moins cher, in fine, par tonne envoyée. Mais déjà, il n'y est pas arrivé. Et ensuite, est-ce que ça suffira? Et après, bah, il faut en fait maintenir sous perfusion ce poste éventuellement habité que l'on pourra déposer sur Mars. Je ne vois pas comment ça peut devenir autosuffisant.
En vous écoutant, on se rend compte qu'il y a quand même un grand décalage entre l'ambition et la réalité. Les enfants qui jouent dans la cour à côté là, de l'école ne sont pas prêts d'aller habiter sur Mars. Parce que fabriquer la vie, en fait, c'est très subtil, c'est très compliqué.
Alors ça, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On ne sait pas comment ça s'est fait. Hein. Alors, il y a aussi cette question, votre remarque m'y fait penser, sur Mars, n'y en a-t-il pas déjà? Et aller sur Mars et aller commencer à s'implanter et donc à modifier un petit peu même un environnement relativement local à côté d'une base où on se serait installé, est-ce que ce n'est pas mettre en péril un environnement extrêmement, sans doute plus fragile encore que celui de la Terre, si jamais des organismes vivent quelque part? Alors, Mars est totalement inhabitable, sa surface. C'est extrêmement oxydant. En gros, la surface, l'un des composés du sol, à plusieurs pourcents, c'est un composé proche, c'est l'eau de Javel. Donc, vous imaginez que partout, le sol est imbibé d'une proportion non négligeable d'eau de Javel. Ça a des propriétés quand même de stérilisation qui sont bien connues. Donc, ça rend la chose complexe. Mais peut-être qu'en sous-sol, il y a des zones sans doute encore assez volcaniques en profondeur sur Mars. Il existe peut-être des bactéries qui arrivent à s'en nourrir. Et on pourrait se demander, s'il y a une vie autochtone, aller sur Mars, est-ce que c'est pas un petit peu la mettre en danger? Et c'est quelque chose qui tiraille un peu les chercheurs. Et déjà, ils font attention en envoyant des robots. Les robots sont stérilisés autant que faire se peut avant d'être envoyés. Et il y a des régions où on suspecte la présence temporaire, parfois à certaines saisons, à certaines heures de la journée, d'eau liquide qui coule très légèrement. Eh bien, on fait l'effort de ne pas y aller. On ne s'approche pas.
Pour l'instant.
Ces régions sont interdites d'accès. Pour l'instant, alors c'est intra-NASA, hein, puisque de toute façon, il n'y a que les équipes de scientifiques de la NASA qui travaillent là-dessus. Mais pour l'instant, il y a ce consensus, alors qu'il pourrait aussi voler en éclats si des privés arrivent, au-delà de tout cadre légal, à s'imposer quelque part sans contrôle étatique.
Adrien Pinon, comment est-ce que vous réagissez, vous, aux ambitions de ces milliardaires?
Oui, moi je rebondis sur ce que vient de dire Patrick, sur l'envie d'exploration, de conquête. On aurait déjà beaucoup à faire à découvrir le fond des océans. Mais je trouve qu'il y a deux choses bien différentes. Enfin, moi personnellement, le fond des océans me fait peur, mais les étoiles me font rêver. Et donc du coup, le fait de regarder vers le ciel et de voir ce qu'on pourrait à aller découvrir ce sur quoi on pourrait atterrir. Ça fait plus rêver que cette masse bleue énorme et un peu effrayante qui est le fond des océans. Je pense aussi que c'est pour ça qu'on regarde plus facilement vers le haut. Et c'est justement, enfin, moi, pour le projet programme Blue Marvel, j'ai repris tous les codes de ces explorations, de ces conquêtes qui donnent envie au grand public, à une certaine partie du grand public, de jouer le jeu et de se dire « ouais, l'aventure est possible » en suivant ces milliardaires excentriques. Donc le but, c'est d'utiliser ces codes visuels, la grande aventure,
cet imaginaire-là,
mais justement de braquer la chose et de repointer l'objectif sur la planète Terre en disant « en fait, la grande aventure, elle est d'abord ici ». Et donc du coup, voilà, c'était vraiment d'utiliser tout cet imaginaire, ce côté très étincelant des programmes spatiaux, de la conquête et de l'exploration, pour attirer le grand public et dire « regardez, il y a une aventure tout aussi extraordinaire ». Mais je la ramène sur Terre.
Bah oui, puisqu'on l'a dit hein, dans cette émission, c'est la seule planète habitable dans le coin pour l'instant. Donc prenons-en soin, allons l'explorer. Moi, honnêtement, explorer le fond de l'océan, c'est quelque chose qui me fascine énormément, mais c'est très personnel. Isabelle Sorbès-Verger, cet appétit pour l'espace, en effet, Patrick Tolo alertait sur le fait que si des enjeux privés s'en mêlent, ça va complexifier la chose, parce que c'est quand même un enjeu géopolitique extrêmement fort aujourd'hui.
Oui, oui, clairement. Juste pour finir ce que vous disiez, si on reprend Jules Verne, il écrit à la fois 80 000 lieues sous les mers et de la Terre à la Lune. Donc, si vous voulez, il y a, je pense, ces deux dimensions, elles vont de pair. Maintenant, je crois qu'il ne faut quand même pas sous-estimer quelque chose dans Jeff Bezos ou Elon Musk. C'est que quand même, ils se voient en marqueur de l'humanité. Et l'un comme l'autre ne sont pas pour rien des gens du monde de la com, du numérique. Et il n'y a qu'à voir la manière dont ils scénarisent leurs activités. Et je pense que dans cette idée que l'homme a quitté la planète et qu'on dira merci à ceux qui ont été à l'origine de cette grande aventure, ils écrivent leur nom en lettres de feu, hein, quand même. Donc je pense qu'il y a aussi une ambition personnelle à porter cette idée qu'ils vont être des super pionniers ou des pionniers galactiques. Hein. Je crois
oui,
que ça
travaille
aussi,
sur la lutte contre le vieillissement cellulaire, l'immortalité,
Le transhumanisme qui va derrière, etc. Donc je pense que là, c'est quand même aussi quelque chose qu'on peut pas nous non plus occulter. Après, tout à fait dans le cadre de l'activité spatiale, aujourd'hui, cette activité, elle est régie par les États. Et le traité de 67, qui est le grand traité sur l'espace, n'est pas très précis, mais c'est un traité qui est signé par l'ensemble quasiment de tous les États de la planète et qui rend les États responsables de leurs activités. Donc si un satellite, et d'ailleurs c'est arrivé une ou deux fois, retombe sur Terre et crée des dommages sur Terre, c'est arrivé avec un satellite soviétique qui avait un réacteur nucléaire, eh bien c'est à l'État qui possédait ce satellite de nettoyer, de réparer les dégâts. Donc l'État peut déléguer, et c'est ce que fait l'État américain avec Elon Musk, qui peut couvrir la responsabilité de l'acteur privé, et à ce moment-là, c'est un accord entre l'État américain et le prestataire qu'il se choisit, dans le cas des États-Unis, qui est bien sûr une société américaine. Donc Elon Musk, il n'ira pas sur Mars tant qu'il n'aura pas eu les autorisations de la NASA de toute façon pour décoller. Donc ça, c'est déjà une chose qui est très très claire. Et du coup, c'est assez confortable quelque part pour Elon Musk parce que les lanceurs qu'ils font, ils les développent dans le cadre des programmes, comme vous le disiez, de la NASA, voire du Pentagone d'ailleurs, accessoirement, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'histoire de SpaceX, la société d'Elon Musk, elle a commencé avec une mise au tribunal du Pentagone qu'il ne l'avait pas pris en compte dans les projets réalisables en termes de télécommunications spatiales. Donc, si vous voulez, il y a vraiment cette idée qu'il faut que ça soit l'argent public qui nourrisse. Les projets lunaires aujourd'hui, où on parle de cette base lunaire qui serait peut-être un jour autosuffisante, etc., et dans lequel les acteurs privés interviendraient, tous les rapports aujourd'hui qui sortent, entre autres cofinancés par les mêmes acteurs privés, disent que ça ne serait possible qu'après 20 ans d'investissement public. Donc effectivement, aujourd'hui, ce sont les États qui ont la main, ce sont les États qui déclenchent les missions et qui décident des missions, avec quand même des organisations scientifiques internationales. Si vous prenez le COSPAR, pour reprendre, qui est l'association des gens qui font de la science spatiale, hein, Si vous reprenez le COSPAR, eh bien, il y a des comités qui réfléchissent à la protection planétaire, entre autres choses, et qui sont ceux qui portent quand même la question des enjeux éthiques, si vous voulez, on peut les appeler comme ça, mais en tout cas de responsabilité qu'on a vis-à-vis de cette sortie, en quelque sorte, de la planète.
Alors, l'un des moteurs pour investir dans l'aventure spatiale, ça peut être aussi le fait que cette aventure spatiale est utile pour surveiller l'état de notre planète Terre. Nous en parlons juste après. Une bouffée d'énergie signée Carole King, I Feel the Earth Move. Carole King, I Feel the Earth Move dans C'est pas du vent sur RFI. Nous sommes au centre culturel Le Riz à Villeurbanne, près de Lyon, avec nos invités à l'occasion de la 4e édition du festival de l'école urbaine de Lyon. L'école de l'Anthropocène réunit ici toute cette semaine une centaine de chercheurs, d'enseignants, d'étudiants, d'artistes et d'écrivains pour réfléchir aux impacts globaux de la dégradation de notre environnement. Et nous, nous nous interrogeons sur ce qui nous donne envie à nous, les humains, d'explorer l'espace. Une exploration qui nous permet aussi d'en apprendre plus sur l'état de notre planète. C'est la conviction de l'AGEO, l'agence gabonaise d'études et d'observation spatiale qui travaille sur des données fournies par des satellites étrangers pour surveiller ses forêts et son littoral.
Si le Gabon est dans le bassin du Congo l'un des pays qui surveille le mieux son environnement, il le doit sans doute à son agence spatiale, l'AGEOS, qui dispose depuis 2010 d'une antenne de réception satellitaire à Nkok, près de Libreville. Tanguy Gaouma est le directeur général de l'AGEOS.
L'antenne qui est placée à l'AGEOS a l'énorme avantage d'être une antenne assez innovante, assez nouvelle. Donc, elle bénéficie des toutes dernières technologies en matière de réception directe de données satellites. Et elle a un champ de réception qui couvre 2800 kilomètres. Donc, on couvre toutes les forêts d'Afrique centrale et on couvre aussi quasiment 60% des forêts d'Afrique de l'Ouest.
Originaire du Nigeria et du Bénin, la jeune américaine Lola Fatoyinbo Age est le chef de cette mission pour la NASA.
Nos satellites nous permettent de mesurer la topographie et la hauteur des forêts au Gabon, et ceci pour nous est une indication du carbone qui est stocké dans les forêts et aussi de la structure de la forêt. Et c'est vraiment important car nous ne savons pas vraiment combien de carbone est stocké dans les forêts. Donc si elles changent avec le changement climatique, ceci nous permet d'avoir des mesures très exactes.
Isabelle Sourbès-Verger, c'est un exemple parmi d'autres de ce que la surveillance de notre planète par les satellites peut nous apporter.
Vous évoquiez 72. 72, c'est l'année du premier satellite civil d'observation de la Terre lancé par la NASA et dont les images seront diffusées gratuitement aux scientifiques du monde entier pour qu'ils apprennent à utiliser ces images, à comprendre ces images et à lire ces images. Donc, et ce qui est amusant, c'est que alors que les satellites de reconnaissance militaire prenez des photos de la Terre très très précises, eh bien, ils vont refuser que ces capteurs soient utilisés et on va utiliser les capteurs qui avaient servi à explorer la Lune, puisque c'était des capteurs civils. Donc la question de ces images, après, c'est leur type, leur résolution, c'est-à-dire les détails qu'ils vous permettent de voir, les bandes spectrales dans lesquelles ces systèmes travaillent. Et puis aujourd'hui, vous avez de l'optique, du radar, du lidar.
Mais enfin, du coup, grâce à ces satellites, Patrick Tolo, on espionne... on entendait la forêt, le littoral, la hausse du niveau des mers. On peut tout voir de ce qui se passe sur la Terre.
Alors tout peut-être pas, on peut sûrement trouver des choses qui vont être difficiles à voir, mais on voit énormément de choses, effectivement, avec de nombreuses techniques, hein, comme disait Madame Soumès-Verger. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'utilise comme données satellites. C'est le Gabon, hein, dont on vient d'entendre parler. C'est peut-être des données visibles. Alors à ce moment-là, ça ressemble à de la photographie. Et tout le monde y a accès maintenant, grâce aux privés, qui ont leurs propres satellites d'observation, avec des photos de très bonne qualité, extrêmement détaillées, qui sont disponibles, par exemple, sur Google Earth. Donc en ouvrant ce logiciel ou le site internet directement, on peut voir la totalité de la surface de la Terre, assez récemment photographiée. On peut même faire l'évolution depuis les années 80. Les équipes de Google sont remontées assez loin et donnent accès à des données satellites. Alors c'est peut-être... D'ailleurs, oui, il y a des données Landsat, hein, cette première famille de satellites américains qui a été lancée depuis les années 70 et 80, qui est d'ailleurs continuée, hein, pour qu'on ait des observations comparables sur des très longues durées temporelles, enfin quelques décennies au moins. La NASA met en orbite... Enfin, NASA et la NOAA, l'Agence environnementale américaine, mettent en orbite un satellite qui ressemble au précédent très régulièrement, et ils font des calibrations croisées, on appelle ça. Donc, ils s'assurent que le satellite nouveau voit exactement les choses de la même manière que le satellite ancien, avant de le couper, finalement. En général, c'est quand ils n'ont plus de carburant pour l'orienter correctement. Et après, vous avez des données radar qui permettent de voir la nuit, qui permettent de voir les vagues. D'après la forme exacte des vagues, on peut déterminer la nature et la direction des vents à la surface de l'océan. On peut voir la température. On peut voir à travers un petit peu d'épaisseur d'océan s'il y a des blooms planctoniques. On peut donc voir la production, la photosynthèse dans les océans, qui est aussi importante que sur les continents. Et la seule chose, finalement, à laquelle on n'a pas accès, c'est le fond des océans. On revient d'ailleurs à ce problème de cette partie assez inexplorée de notre
planète. Ça n'intéresse pas Adrien Pilon, donc ce n'est pas grave.
Après 100 ou 200 mètres de profondeur, on n'a accès à rien du tout, puisque l'eau est totalement opaque à tous les rayonnements que l'on utilise pour pouvoir à travers. Notre seule façon de s'en sortir, c'est les satellites gravimétriques, qui sont aussi une avancée relativement récente, qui permettent maintenant de voir l'évolution, par exemple, du volume des nappes phréatiques. Ça change l'effet de la gravité au-dessus d'une région, la présence ou non d'eau en grande quantité dans une nappe phréatique. Et on peut ainsi suivre si les endroits sont pompés, si la nappe se recharge. Et de la même manière, on peut voir quand il y a des montagnes sous-marines. Ça fait des petites bosses à la surface des océans. Et ça peut se mesurer aussi. On en sent leur masse. Donc on peut faire vraiment énormément de choses. Et c'est des choses, d'ailleurs, dont les développements ont parfois été couplés avec des développements de techniques identiques, portées sur des sondes spatiales qu'on a envoyées autour d'autres planètes, où là, on n'a pas le choix. On est obligé d'avoir accès à l'information depuis l'espace avec un instrument orbital. On ne peut pas se poser sur toutes les planètes, toutes les lunes de Jupiter pour avoir le même type d'information.
Adrien Pinon, voilà un moyen de revenir sur Terre, finalement, grâce à la conquête spatiale. Ça va dans le sens de votre projet ?
Oui, oui. Alors déjà, je reformule. Le fond des océans doit être passionnant, clairement. Je dis juste
qu'il y a...
Oui, bien sûr, mais effectivement, ça... C'est... La conquête spatiale, moi, à la base, je suis pas très sensible, mais je pense que comme tout le monde, il y a un imaginaire encore très fort, très marqué des missions Apollo, qui continue à durer. Le fait que Thomas Pesquet soit allé deux fois dans l'espace et encore une fois très récemment, ça maintient cette passion pour la conquête spatiale, ou du moins ça nous la fait découvrir. C'est comme s'il y avait une nouvelle période de la conquête spatiale qui était advenue là, il y a depuis quelques années. Effectivement, je surfe sur cette vague, en fait. Je surfe sur cette mode de la conquête spatiale pour ramener les pieds sur Terre.
Mais c'est vrai que c'est essentiel, surtout que Patrick Tolot, finalement, nos ambitions spatiales, on pourrait dire parfois quand on entendait Jeff Bezos ou Elon Musk, ça montre le nombrilisme humain, mais ça montre aussi à quel point on a besoin de prendre conscience de notre place dans l'univers, et ça permet de prendre un petit peu de hauteur, c'est le cas de le dire, parce qu'on a tendance à oublier quand même que la Terre a une histoire qui a 4,5 milliards d'années, et que peut-être que finalement, il faut admettre une fois pour toutes que l'humanité est amenée à disparaître, quoi, parce qu'il y a eu des cycles sur la planète, si on prend le temps long, qui font que, voilà, on peut être un peu pessimiste sur l'avenir.
Alors c'est vrai que l'humain a un regard qui est forcément limité par ses sens et sa durée de vie. Donc on se rend pas compte même ce que c'est quand on prononce ce nombre, 4,5 milliards d'années, ça dépasse complètement l'entendement. Déjà 65 millions d'années, peut-être une date qui est connue, c'est le moment où ont disparu les dinosaures, qui sont aussi une famille animale emblématique. C'est incommensurable. Si on pense que l'homme moderne, une datation encore a récemment été faite et publiée, à 200 000 ans environ, 200 000 ans, c'est déjà incommensurable. Donc on a un problème, c'est que notre humanité, elle est perdue dans le temps, à un moment où on est actuellement. Elle est aussi perdue dans l'espace, bien sûr. Alors quoi de mieux que pour se rendre compte avec du recul de l'immense fragilité de notre planète perdue au milieu du vide, que cette image qui a été prise en 1990 par la sonde Voyager 1 qui s'est retournée, et alors qu'elle quittait le système solaire, elle avait déjà franchi la distance Soleil-Neptune, donc elle était plus loin que la plus lointaine planète, et elle avait été éjectée par Jupiter au-dessus du plan du système solaire. Et avant de couper ces instruments, dans cet endroit-là, évidemment, il n'y a plus rien à voir de près. Tout ce qui est intéressant, c'est les mesures de champs magnétiques et de particules galactiques. Et avant de couper complètement les caméras, les astronomes, à la demande insistante de Carl Sagan, qui était un vulgarisateur qui était très impliqué là-dedans, s'est retourné et a pris une photo du système solaire. Alors en fait, c'est une photo faite par plusieurs photos. Et donc, il y a tout un montage qui permet de voir un petit point lumineux à chaque planète du système solaire. Vénus et Mercure sont trop près du Soleil pour être bien visibles. Du moins, Mercure est perdu dans sa lumière. Et la Terre, c'est un pixel bleu. Juste un pixel, un élément d'image sur lequel on ne voit rien. On devine que c'est bleu. Et il est perdu sur cette image dans un rayon de lumière solaire qui est diffusé dans l'appareil optique. Et on voit sur cette image que ce pixel bleu est entouré de noir, est totalement perdu dans l'espace. Et ça nous fait potentiellement... Ça nous remet en place. Quoi. Parce que sur ce petit pixel bleu, c'est ce que disait Carl Sagan à cette époque, c'est que toute l'humanité a vécu, toute l'humanité vivra, n'en déplaise à Jeff Bezos et Elon Musk, a priori. Et quand on pense à la façon dont on s'entretue pour posséder un coin du pixel bleu, ce que dit Carl Sagan, c'est dérisoire.
Adrien Pinon.
Oui, je voulais rebondir sur le fait qu'on ne voit qu'un petit pixel bleu, mais déjà sur Blue Marble, l'autre anecdote qui est intéressante, c'est que donc c'est la première fois qu'on photographie la planète Terre au milieu de cette immensité noire, donc déjà on se rend compte de sa fragilité. Pour revenir sur notre position, l'humanité, ce qui est très intéressant sur cette photo, c'est qu'en fait, il y a l'Afrique. Donc en fait, symboliquement, en plus, outre le fait de voir notre planète Terre, on voit aussi le berceau de l'humanité. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait la force de cette photo. Bon, originalement, elle est à l'envers, c'est-à-dire qu'on voit l'Afrique à l'envers. On la repositionne et donc du coup, on découvre le berceau de l'humanité au milieu de cette étendue bleue incroyable et au milieu d'une immensité noire terrifiante.
Et tout ça nous donne évidemment des perspectives, Isabelle Sauvès-Verger.
Oui, et c'est aussi une manière de se re-raconter cette histoire parce que Carl Sagan, c'est aussi quelqu'un qui a un projet. Par rapport à la défense de la Terre, etc., etc. Et donc, on dit, on a pris Blue Marble et du coup, on a pris conscience, etc., etc. Mais en fait, ce sont des mouvements parallèles. Et à mon avis, je n'ai jamais étudié en détail, mais le mouvement environnementaliste, il va se servir de ces images et il va, d'une certaine façon, donner à la NASA une nouvelle dimension. C'est-à-dire que la NASA faisait de l'exploration spatiale et d'un seul coup, la NASA prend conscience qu'elle a un rôle vis-à-vis de la Terre. Et vous avez des grands programmes de la NASA qui sont Planet Earth, par exemple, qui sont des satellites de science destinés à comprendre la Terre et l'environnement de la Terre. Toute une nouvelle génération de satellites qui vont être dédiés vraiment à cette visée de la Terre pour elle-même. On se recentre vraiment profondément sur la Terre et le spatial va avoir ce rôle-là qui n'est pas son rôle initial en quelque sorte. Et ça, je pense qu'il y a un aller-retour entre la prise de conscience sur Terre des problèmes d'environnement, etc., et l'utilisation des satellites. Et d'ailleurs, Trump était très hostile à ce programme de la NASA qui a dû plus ou moins le transformer. Elle a été jusqu'à un moment à faire bouger le nom pour avoir de nouveaux crédits au Congrès parce que l'environnement faisait moins rêver Trump que les troupes spatiales, par exemple.
Oui, alors qu'une meilleure gestion de la planète Terre, on en a évidemment énormément besoin, on l'a bien compris, d'autant plus que vous nous l'avez bien expliqué, il n'y a pas d'autres planètes habitables dans le coin. Donc voilà, concentrons-nous sur ce petit pixel bleu dont vous parliez, dont nous dépendons étroitement. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour l'installation de ce studio ici au RIS à Villeurbanne. Merci à Cédric Duroux pour l'organisation de cet enregistrement et merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et vos messages. Continuez à nous écrire c'estpasduvent@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète, même heure.